dans les oreilles de un invité.
Je suis Mathieu Bogart.
Jane Birkin.
Romain Gavras.
Luigi Sakamoto.
Monster.
Dans les oreilles, une vie en musique.
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça, c'est une bonne question.
There are many, many songs. Pour moi, c'est difficile d'expliquer.
Nova.
À chacun sa BO.
D'abord, on m'a forcé à aller à l'opéra.
Ça m'a vraiment fasciné.
Le blues et le reggae.
C'était super bien.
Parce que la musique, c'est le plus profond langage humain.
Nova vous plonge dans les oreilles de
La Horde.
On est le collectif La Horde. C'est un collectif de 3 artistes composé de Marine Brutti, Jonathan De Brouwer et Arthur Harel. On s'est formé il y a une dizaine d'années et on écrit ensemble des œuvres chorégraphiques, des installations, des performances, mais on réalise aussi des films. Voilà. Et notre médium, notre sujet principal, c'est le corps dansé. Voilà. Donc moi, c'est Arthur Harel du collectif La Horde.
Jonathan De Brouwer du collectif La Horde.
Marine Brutti du collectif La Horde.
Dans les oreilles de...
Un corps dansé, filmé, pensé en collectif depuis 2011, année de création de La Horde qui, en plus d'une décennie, aura permis à des danseurs, performeurs du monde entier de passer de l'écran au plateau et aux spectateurs de découvrir ce qu'ils nomment les danses post-internet. Des pratiques nées dans un salon ukrainien, une chambre québécoise ou encore un club géorgien, réunis au fil des créations. Depuis adolescents, seniors, malvoyants, musiciens, plasticiens, ont agrandi les rangs de La Horde, un collectif à géométrie variable qui, dans ce va-et-vient, cherche, embrasse la forme, le mouvement le plus sincère pour traduire l'époque. C'est ainsi, en collectif, que s'est créé, avec le ballet de Marseille qu'il dirige depuis 2019 et le musicien Rhône, Set Room With A View, création qui nous raconte, nous, l'effondrement qui dit notre jeu, notre nous, notre jeu au milieu du nous. Une danse entamée avant le confinement de 2020 et qui, 2 ans plus tard, se trouve plus forte de sens encore. La Horde est avec nous et revient sur les musiques qui les ont accompagnées, façonnées, nourries. Alors pour ouvrir cette émission, quel serait le morceau qui vous traduirait le mieux ?
Alors... La force d'un collectif, je pense que c'est assez difficile de réduire à un, quoi qu'il arrive. Donc je pense que même pour la musique, ça va être extrêmement difficile. Je pense qu'on s'est posé pas mal la question en venant. Et,
Peut-être que le morceau qu'on a le plus entendu ensemble, c'est quand même Hardcore to the Bone.
Oui, c'est vrai que c'est celui-là qui nous vient...
Masters of Ceremony, Hardcore to the Bone.
Hardcore to the Bone.
Dans les oreilles de
La Horde.
Masters of Ceremony sur Radio Nova, qui n'a pas fait revenir hein, Manuel Malin de bon matin, mais qui a laissé les clés au collectif La Horde. Dans leurs oreilles, du hardcore, une musique indissociable d'une de leurs créations, Tuda Bone, qui réunissait sur scène des danseurs de jump style venus de l'Europe entière. Un shoot d'énergie, la découverte des danses post-internet. Marine Brutti, Jonathan De Brouwer et Arthur Harel de La Horde partagent avec nous la bande-son du collectif. Et dans quelques instants, eh bien, sachez que Kaoma croisera Eric Serra et Jim Morrison, Janet Jackson. On les retrouve.
riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road.
Dans les oreilles de
La Horde.
The Doors sur Radio Nova et dans les oreilles du collectif La Horde. Riders on the Storm, extrait de LA Woman, disque sorti au début des années 70 et que l'on pouvait entendre quelques décennies plus tard chez Jonathan de La Horde.
Moi, c'est les Doors, c'est ce qui jouait à la maison. Et c'est vrai que ça a continué en fait. Moi-même tout seul, après, en faisant mes trajets pour aller à l'école, j'écoutais les Doors.
Et est-ce qu'il y avait beaucoup de musique chez vous ?
Ah oui, il y avait beaucoup de musique. Il y avait du jazz aussi, mais ça m'a moins emporté.
Moi, je suis née en 85, donc premier souvenir musical, c'est Bad de Michael Jackson en 89. Et il m'habite encore, quoi. Genre, c'est un morceau qui est hyper fort et qui à l'époque plaisait autant à des enfants de 3 ans, du coup, qu'à des adultes et des adolescents. Je crois que c'était au top 50 et que j'avais été hyper troublée en fait par Michael Jackson et que j'ai tenu une question pendant hyper longtemps à mon père. Je disais, mais enfin Michael, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon? Et il me demandait pourquoi, je disais, ouais, je sais pas, elle a les cheveux longs, mais en même temps elle fait ce geste où elle se touche comme ça, le pubis, je pense que je disais pas le pubis à cet âge-là, mais... Et mon père m'a jamais donné la réponse et je le remercie beaucoup pour ça.
Et Arthur?
Ben moi, c'est un peu comme les odeurs, le parfum, la musique, c'est des sensations qui me ramènent à des moments de vie. Et le premier qui me vient comme ça, c'est dans l'appartement familial avec l'appartement de ma mère et celui de mon père. En face, on écoutait France Gall et Alain Souchon pendant qu'on faisait le ménage. Et c'est vrai que c'est comme des Madeleines de Proust chez moi, dans un appartement parisien comme ça. Mes deux parents se sont beaucoup battus pour nous élever à Paris, moi puis après ma sœur. Et donc c'est une téléportation de ce moment-là où on passait l'aspirateur à deux avec ma mère dans son appartement.
C'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles.
Moi, c'est pareil. Genre, mon père jouait du saxophone et de la clarinette, et il y avait beaucoup de musique à la maison. Mais je pense que le premier album que je me suis approprié toute seule, c'était celui du Grand Bleu. En fait, c'était un film aussi qui était sorti, je pense, fin 80, début 90. Et j'étais aussi très petite, mais je me rappelle qu'il y avait un dauphin sur l'album. Je sais pas si c'était des trucs qui plaisaient aussi aux enfants. Et en fait, il y avait une moquette bleue chez moi. Et j'imaginais que je faisais la planche, en fait, dans l'océan. Et je pouvais rester des heures à écouter le CD. Et c'était un truc que j'arrivais à faire seule aussi. Parce que moi, ça, ces souvenirs-là, j'étais vraiment petite. Hein. Je pense que j'avais genre, je sais pas, 5-6 ans, même pas. Et du coup, c'était des choses où j'arrivais un peu à reconnaître, parce qu'il n'y avait pas encore d'écriture vraiment. Je savais que c'était l'album avec le dauphin et que j'allais pouvoir me mettre des espèces de nappe musicale.
La chanson que je me suis appropriée, c'est en observant ma cousine qui était fan de Madonna. Et ça passait en boucle. Et du coup, je l'écoutais moi-même en boucle. Je lui piquais justement son baladeur et j'essayais de reproduire les chorés qu'elle faisait.
C'est laquelle ? C'était laquelle ?
Je sais plus si c'est Like a Virgin.
C'est marrant parce que quand même entre Le Grand Bleu où il y a quand même la figure de Jean-Marc Barr et qui a été une figure de désir très fort,
ouais.
Et toi Madonna et moi du coup, moi c'est Gala, Free From Desire. Et
je pensais que t'allais dire que c'était France Gall, j'étais ah, bah dis donc.
Non, cette fois-ci c'est pas France Gall, on arrive dans l'adolescence, on n'a pas encore les moyens de s'acheter un CD, mais ouais c'est Gala, c'est la dance, moi ça a été la dance des années 90, mais du coup dans nos trois réponses il y a un rapport au désir et à l'affirmation en tout cas.
Nova
dans les oreilles de
La Horde.
Et vous dansiez, enfant?
Ouais. Moi, beaucoup, oui.
Bah, moi, j'ai commencé le classique en conservatoire quand j'avais 5 ans. J'en ai fait de mes 5 ans à mes 15 ans. Et du coup, bah, ouais, j'y allais au départ les mercredis après-midi. Puis après, en grandissant, je faisais 3 cours par semaine.
Et la première musique sur laquelle vous avez dansé?
La lambada. Moi, je vais avoir que des références ultra pop.
Les fun fêtes de famille.
La lambada. C'est la lambada avec ma cousine le dimanche. On faisait des spectacles pour ma famille.
Non, moi non, pas la lambada.
Bah toi, t'as 5 ans de différence avec nous, c'est énorme. Hein,
moi, je crois que c'est les to be free, je crois.
Ah ouais.
C'est encore pire.
Et donc les premières, les chorés qu'on fait à la maison, parce que c'est pas la même chose quoi, l'enseignement classique et la liberté qu'on prend chez soi, les premières créations que vous avez pu faire chez vous, vous vous souvenez sur quoi c'était ou pas?
Oui, sur du hard rock aussi, ou même sur de System of a Down, je me rappelle, je dansais comme un dingue, mais vraiment que pour moi quoi. J'étais ado, j'écoutais Marilyn Manson aussi, et Slipknot. J'ai un petit côté dark. Mais en même temps, je trouvais ça fascinant parce que c'était comme... Je regardais vachement le catch quand j'étais petit. Hein. Et pour moi, ces chanteurs, en fait, c'était des spectacles en soi. Comme Eminem à cette époque-là, en fait, ces artistes-là, j'étais assez fasciné, encore plus par la mise en scène, en fait, que vraiment, je pense, par leur musique. Même si je trouvais que la musique était hyper, hyper intéressante, c'était ultra intelligent à l'époque, justement, de faire ce qu'ils proposaient. Aujourd'hui, moi, je me détache vachement de ces artistes-là, mais en tout cas, à l'époque, je trouve c'était très fascinant, justement, d'essayer d'aller à l'encontre, en fait, de tout ce qui pouvait se passer. Et de critiquer aussi un peu les différents codes qu'il pouvait y avoir. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city.
Moi, c'est Dalida. Vraiment, Dalida, les chorés et jouer Dalida, je le faisais depuis que j'étais vraiment toute petite. Je le fais encore. Parole,
parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, 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 parole. Parole,
encore des paroles que tu sais. Et pour revenir à la scène, est-ce que vous avez des souvenirs très marquants de concerts ?
Moi, c'est un souvenir de live en Bretagne, dans Fesnos. Je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé avec Marine et Jonathan, ils refusent des cornemuses dans toute création. La cornemuse
c'est
a été bannie de nos conversations.
Bien les cornemuses.
Moi, je sais pas si c'est mon adolescence en Bretagne, mais la cornemuse m'émeut fortement, puisque le premier concert que mes premiers souvenirs de live, c'est face à la mer avec, c'était comme une musique ancestrale et à la fois complètement contemporaine, ancrée dans un moment présent, qui m'a très 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 ému.
Moi, c'est Texas. Mais j'ai encore suivi mes parents.
Ah oui, c'était où ?
Je pense que j'étais trop jeune pour me souvenir exactement où ça se situait, mais c'était à Paris.
Moi, en fait, quand j'étais petite, on habitait à Gonesse, qui est une ville qui est un peu à côté de Sarcelles, dans le 95. Et il y avait une grande communauté créole. Et en fait, pendant les carnavals, il y avait tout le temps des concerts dans les salles de fête. Et en fait, je pense que pareil, je devais avoir 4-5 ans. Et on était dans une salle noire, un dimanche, quoi, en plein après-midi. Et il y avait Tina Turner. Et en fait, évidemment, ce n'était pas Tina Turner.
Ah oui, je la connais, cette histoire,
mais
je l'adore.
J'ai cru pendant très longtemps que c'était elle. Et en fait, c'était une femme qui portait un peu les perruques qu'elle avait, avec des mèches un peu rouges et tout devant. Et je me rappelle que j'étais comme une dingue, quoi, parce que j'en revenais pas que Tina Turner vienne à Gonesse. Et du coup, j'ai essayé de monter sur scène, j'ai essayé d'aller avec elle, et je pense que la performeuse trouvait ça assez amusant. Donc en fait, elle a un peu chanté tout le concert pour l'enfant de 5 ans qui essayait de grimper tout devant. Mais il y avait personne, hein. Je veux dire, c'était pas un concert avec foule et tout, quoi, mais c'était les trucs un peu pendant le carnaval en dimanche après-midi.
Nova.
dans les oreilles de
La Horde.
Attends, j'ai l'impression que tu t'en souviens.
Ouais, moi, c'est OK Computer de Radiohead.
Moi, c'était Janet Jackson. Toute la famille Jackson. Janet Jackson, et c'était celui où il y a, je crois que c'était Deep. Oui, Go Deep. Je me rappelle plus du titre, mais c'était la première cassette en tout cas. Pareil, j'avais genre 10 ans.
Moi, j'ai eu la chance de pouvoir Radiohead, justement, à Rock en Seine, au moment en plus où je bossais en tant que serveur. Et c'était magique parce que ce moment-là, en fait, il y avait tellement personne. Parce que tout le monde était fasciné justement par le concert, qu'on a pu se prendre des verres et je me suis dit « Waouh, je suis en train d'être payé, en train de voir mon groupe préféré et en train de boire une petite bière. »
Est-ce que vous avez des expériences de...
Moi, j'ose pas la dire.
Ah,
mais bah, moi, je pense quand même que mon expérience de concert préféré, c'est quand, je sais pas, j'avais 23, 24 ans et que je suis allée au concert des MGMT à la laiterie. À Strasbourg, parce qu'on était étudiants à l'école d'art de Strasbourg. Et c'était juste avant qu'ils explosent, en fait. Ils passaient encore dans des petites salles. Enfin, ils rangeaient encore leurs propres affaires. Et après, on est devenus copains, donc on les a suivis un peu sur des dates de tournée. Et je pense que du coup, c'était un petit peu aussi le fantasme à la Almost Famous, où d'un seul coup, on peut rentrer dans ce monde-là et suivre et un petit peu voir la machine que ça engendre, ce que c'est qu'un festival, ce que c'est que Primavera Sound, etc. Et avec les mêmes grandes découvertes aussi, où quand ils étaient super contents parce qu'ils faisaient la première partie de Radiohead. Et donc, je pense que toutes ces choses-là sont un petit peu un baptême pour rentrer aussi dans ce monde-là et le comprendre un peu mieux.
Thank you.
les oreilles. Dans les oreilles de...
La Horde.
C'est la bande-son d'une époque, un tube indie des années 2000, Time to Pretend, extrait du désormais classique Oracular Spectacular de MGMT. Et c'est aussi une expérience que partageait avec nous Marine du collectif La Horde. D'autres expériences de musique, et notamment celle qu'il partage en ce moment sur scène avec le musicien Ron dans Room with a View, reprise au Théâtre du Châtelet à Paris jusqu'à demain. Dans un instant, avec La Horde, on parle musique et création.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please hurt me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting, ran to the devil.
Dans les oreilles de...
La Horde.
Sur Radio Nova, extrait de Sinnerman, un gospel de la fin du 19e siècle interprété par Nina Simone sur son album Pastel Blues, sorti en 1965. Un cri d'urgence porté par un piano au galop, une crise haletante d'une puissance sans pareille et qui fera même oublier le fait qu'il s'agit d'une reprise. Voilà un morceau qui se niche dans les oreilles du collectif La Horde.
Il y a une question qu'on nous avait posée, genre si vous pouviez rencontrer quelqu'un qui n'est plus là, tout de suite pour moi ça a été Nina Simone. Pour sa colère, sa tristesse et à la fois le talent immense de cette femme, toute son histoire, vraiment je crois que chaque titre de Nina Simone me bouleverse. Et revient dans ma vie de force quoi, c'est-à-dire que... Nina Simone est enchaînée à moi au-delà du principe que j'aime et que je l'admire, et j'admire peu de gens. Je crois pas qu'on soit dans une dynamique d'admirer qui que ce soit, tous les trois on a beaucoup de respect pour les artistes et des valeurs qu'on partage, mais Nina Simone pour moi c'est quelqu'un que j'admire vraiment particulièrement. Pour moi, c'est comparable à Mozart, quoi, dans ses engagements politiques, dans la colère qu'elle avait parfois à être sur scène face à certaines personnes. Ouais, il y a une beauté dramatique et tragique chez Nina Simone qui vient nous choper comme ça aux tripes et qui vient aussi parler de sa condition de femme noire qui n'a pas été acceptée dans un conservatoire dès son plus jeune âge et au début de sa carrière, et qui s'est battue et qui est aujourd'hui ce qu'elle est. Et donc pour moi, ça a été aussi les prémices d'un éveil et d'une conscience quand je me suis, au-delà de sa musique, penchée sur qui elle était. C'est une femme impressionnante.
Je pense que pour rejoindre, peut-être, à ce moment-là, quand j'étais étudiante en école d'art, en fait, je pense que c'est Björk qui m'a bouleversée. Déjà parce que c'était de la musique qui était très agréable d'écouter pour travailler. Et ensuite parce que c'est une artiste, pour moi, qui est une artiste totale. C'est-à-dire qu'elle a un discours qui est extrêmement intelligent, lucide, et une clairvoyance qui est assez rare, et je sais même que j'entendais des choses à l'époque que je ne comprends qu'aujourd'hui. Il y a des choses que j'ai comprises de Björk 10 ans plus tard, quoi. Et il y avait aussi un affect particulier pour montrer des vidéos qui étaient absolument phénoménales. Elle travaillait avec les plus grands réalisateurs, elle travaillait aussi par exemple avec Gondry, et ses clips étaient d'une qualité, et genre étaient vraiment des ovnis, quoi. Le dimanche, quand on regardait un peu MTV, quand on voulait pas sortir et qu'on était ado, c'était quand même un petit peu une espèce de chaîne entièrement Björk ou Daft Punk, quoi. Et c'est vrai qu'elle a toujours proposé des choses d'une extrême, extrême qualité, et qu'elle a réussi à aller un petit peu dans tous les domaines créatifs, de la mode, de la musique, du film, du clip, de la danse. Je repense à son clip It's Oh So Quiet, qui est quand même hyper beau, et où elle arrive à même faire de la comédie musicale en genre extrêmement contemporain. Donc je pense qu'elle, d'un point de vue vraiment de grande valeur d'artiste, ça a été quelqu'un qui m'a complètement bouleversée. And you push me up to this state of...
Même pour rebondir sur Björk, quand elle a collaboré justement avec Lars von Trier, ça a pris une dimension cinématographique.
Dancer in the Dark.
Dancer in the Dark, qui était assez hallucinante.
Dans les oreilles de
La Horde.
Et quelle musique vous associez au début du collectif? Qu'est-ce que vous aviez dans les oreilles quand vous avez monté La Horde?
Il y a un morceau de Daniel Avery qui a marqué quand même le début de La Horde. Il y a Alphaville aussi, Forever Young d'Alphaville. En fait, il faut savoir que quand on fait la mise en scène d'un spectacle, tous les trois, on a effectivement ce corps principal qui est la danse. Et à l'intérieur de ça, nous, on est très attachés au rapport fonctionnel des corps. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec des communautés artistiques de danseurs déjà existantes, comme des danseurs de jump style ou des danseurs traditionnels géorgiens. Et en fait, chaque élément qu'on va mettre dans la mise en scène, que ce soit du décor, la danse, mais aussi les musiques, du coup raconte quelque chose de ce spectacle. Et c'est vrai qu'Alphaville, Forever Young, ça raconte une histoire particulière d'une guerre et d'une jeunesse, et de personnes qui seront à vie jeunes, puisqu'ils sont morts jeunes. Et donc à chaque fois qu'on choisit comme ça des interlocuteurs musicaux ou des musiques et des titres existants, en répétition, en création, c'est pour complémenter, échanger les écritures chorégraphiques avec un titre qui raconte aussi quelque chose.
Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever. musiques, elles arrivent assez tôt, en fait, dans le travail.
En fait, les musiques, elles sont toujours là. Je pense qu'on les utilise effectivement comme des outils, d'abord pour travailler, parce qu'il nous faut de la matière. Quelquefois, on n'a pas la composition au moment où on entre, en fait, dans le studio. Et du coup, on travaille sur des musiques qui nous intéressent ou qui nous habitent depuis quelques semaines. C'est un peu à ce moment-là aussi qu'on les met en commun. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se crée des playlists, on ajoute un petit peu à chacun ce qu'on a envie d'entendre dans le studio. Et à partir de là, on comprend un petit peu ce qu'on cherche et ce qu'on va utiliser tel quel. Donc effectivement, ça arrive avec Alphaville. On l'avait utilisé tel quel à la fin d'un spectacle qu'on avait fait avec les amateurs à la MP2A. Et on va le réutiliser d'ailleurs aujourd'hui dans notre prochain spectacle. On le fait chanter en fait à nos danseurs dans une forme de chorale. Et du coup, je pense que c'est des choses qu'on utilise comme ça, et comme le disait Arthur aussi, pour la signification qu'il y a derrière. Parce que c'est vrai que ça me fait penser un petit peu aussi au spectacle de Pina Bausch, quoi. C'est un titre qui est sorti en 84, donc c'était avant la chute du mur, c'était avant qu'on soit né. Et en fait, c'est de la pop allemande qui parle de cette menace nucléaire et de ce que c'est en fait d'être dans une espèce de couloir aérien d'une possibilité de guerre entre les États-Unis et la Russie. Et je pense que c'est pas anodin si elle ressort encore aujourd'hui pour nous. C'est que par rapport à ce qui se passe en Ukraine, par rapport à des danseurs même qu'on connaît, avec qui on a travaillé sur notre projet Tout d'abord notamment, qui sont en Ukraine, qui sont ukrainiens et qui vivent de plein fouet la violence qui se déploie sur ces territoires, bah, je pense que c'est une manière pour nous de se rattacher en fait à une époque passée qui s'est quasi bien terminée dans ce cadre-là, et de se rattacher un peu à un sentiment qui a été exprimé par des artistes il y a 40 ans déjà.
Il y avait des danseurs venus de toute l'Europe dans ce spectacle ?
Oui, exactement, en fait. C'est des danseurs qu'on a rencontrés sur leur chaîne YouTube, donc online, justement via Internet, et ils viennent du quatre coins de l'Europe. Donc il y a des Français, il y a des Belges, des Ukrainiens, des Polonais, des Allemands, des Espagnols. On a vraiment essayé de les contacter parce que, en fait, c'était pas pour avoir un panel de l'Europe, c'était pour avoir une vraie représentation, en fait, de cette communauté-là. Parce que c'est une communauté, en fait, qui est assez petite, mais qui est vraiment dispersée, en fait, dans toute l'Europe. Et complètement isolés, et ils ont pu justement se rassembler grâce à l'outil Internet. Et ça, on a trouvé ça très très beau justement que des gens qui sont dans des petites villes, souvent la plupart du temps, ou en périphérique de grosses villes, ne puissent pas physiquement se rencontrer, mais se réunissent par la même passion de la musique. Et par cette passion-là de la musique, ont décidé de danser seuls dans leur chambre pour pouvoir exprimer justement leur amour de la musique, mais aussi comme un exutoire justement de toute leur colère qu'ils pouvaient avoir. Et au lieu de faire du sport, justement, d'aller faire du foot, bah, ils ont décidé justement d'exprimer ça via la danse.
Via la danse. Et est-ce qu'ils ont des titres, il y a des titres phares du coup qui se partagent dans ce que vous avez appelé les danses post-internet? Est-ce que vous avez découvert justement des courants musicaux avec ce travail-là, enfin avec cette recherche-là?
Ah oui, énormément.
Bah, c'est vrai qu'ils sont issus d'une communauté de musique qui va du gabber à quoi, l'eurodance.
Ouais, en fait, c'est un petit peu tout ce qu'on, nous, on a réuni autour des hard dance, donc qui font partie un petit peu de tout le mouvement techno hardcore. Et à l'intérieur de la techno hardcore, il y a plusieurs sous-genres qui vont en fait du 120 BPM au 160. Mmh. Et à l'intérieur de ça, bah, on va avoir le gabber qui est donc vraiment au plus haut, et finalement le jam style qui est rapide aussi, mais qui se fait aux alentours de 120-140. Et donc ça influe sur la danse et ça influe sur le style musical aussi. Et par exemple, la danse du gabber, ben, on va plutôt retrouver du haken, et dans le jam style, c'est la danse jam style. Et un de leurs hymnes qui nous a fait aussi un petit peu rentrer dans leur communauté, c'était Headhunters Rock Civilization. Après, il y a quand même aussi eu un travail, parce qu'il y avait un gros revival à ce moment-là, avec des artistes français qui reprenaient un petit peu cette vague. Je pense notamment à Amour Océan, qui faisait partie du collectif
Casual Gabbers.
Casual Gabbers. avec aussi leur compile Inutile de fuir, etc. Et Amour Océan, c'était vraiment dans la lignée justement d'un Jones and Stevenson. Ils prenaient des sons qu'on avait déjà entendus, mais remis un petit peu au goût du jour. Et ça a donné plein de connexions. C'est eux qui ont fait la musique de notre spectacle. Mais je sais qu'on a des jumpers qui ont été dans leurs clips, etc. Donc ça a encore renforcé cette communauté particulièrement française autour de ce mouvement.
Nova,
dans les oreilles de...
La Horde.
Amener ces pratiques de danse sur un plateau, c'est aussi la faire découvrir à des personnes qui ne vont pas en club.
Ouais.
C'est qu'il y a quand même aussi des danses qui ne sont pas des danses, disons, officielles ou qui, là, quand même, ont accès.
Enfin, ouais, complètement. Ouais.
Et alors, Rune, comment ça s'est passé à quel moment il est arrivé comment vous l'avez convié? Pourquoi vous avez pensé à lui?
En fait, c'est lui qui a pensé à nous. Il nous a contactés via Instagram. Et on a fait un rendez-vous et en fait il a eu une carte blanche en fait qui a été donnée par le Théâtre du Châtelet sous la direction de Ruth McKenzie. Et du coup il pouvait faire ce qu'il voulait, mais sauf qu'il n'avait pas envie de faire un concert, il avait envie de faire un spectacle. Il était justement sur la création de son prochain album et ça faisait un moment en fait qu'on avait envie de collaborer ensemble, donc ça a été... le moment justement pour créer ce spectacle-là, et ça a vraiment été un échange, un va-et-vient entre lui, la création de ses sons, nous, la création des mouvements. En plus, ça c'était bien avant qu'on ait la direction du Ballet National de Marseille, et on lui a dit, bon là on imagine conceptuellement tout le spectacle, et au mois de septembre on sait si on a la direction du Ballet de Marseille, donc forcément du coup le projet risque de changer un peu, parce qu'on aura la chance en fait de pouvoir avoir cette compagnie permanente, où il y a 16 différentes nationalités, donc forcément ça allait nourrir tous nos propos en fait de ce spectacle-là.
Dans le cadre de Rhône, je pense que c'était vraiment une collaboration très particulière. Parce qu'en fait, on est un collectif. On sait que donc on est trois têtes pensantes et qu'on a réussi à créer un espace conversationnel entre nous où on échange les idées et on est comme dans une espèce de brainstorming permanent. Et en fait, quand on a rencontré Erwan et qu'il est venu avec cette proposition, on lui a proposé de se joindre à nous en fait et de faire collectif à quatre. Et du coup, c'était assez passionnant parce qu'en fait, le spectacle n'était pas écrit, l'album n'était pas écrit. Et donc, en fait, on a pu vivre un instant, je pense, assez magique, qui reprend un petit peu aussi les formes des grands ballets qu'on pouvait faire à l'époque, où on est vraiment dans une œuvre totale. C'est-à-dire que tout se fait en même temps. Et donc, évidemment qu'au départ, c'est Erwan Rhône qui a eu l'impulsion de nous inviter, et que c'est sous son invitation. Mais en fait, très vite, on s'est retrouvés à vraiment écrire ensemble. Et ça, je pense que c'est des situations qui sont assez... précieuse en fait, parce que c'est vraiment comme ça qu'on arrive, je pense, à faire des grands projets où tout le monde s'y retrouve. Et du coup, il n'y a pas eu la danse avant la musique avant la danse, le décor après tout et les costumes qui viennent derrière. On a vraiment réfléchi à une vision d'ensemble, ensemble, pour ce qu'on avait envie de porter aussi. Et c'est pour ça que ce spectacle, il est quand même aussi un peu sous la forme d'un conte quelque part, c'est-à-dire qu'il y a un fil rouge qu'on peut suivre. Parce que c'était hyper important qu'on arrive à se réunir tous les quatre autour de sujets qui soient communs aux quatre. Parce que nous, on a déjà nos sujets de conversation. Mais de réussir à faire le pont avec Erwan, cette idée de parler d'écologie sans être dans du greenwashing, de réussir à avoir un regard sur la situation sans être dans une accusation de notre génération, c'était hyper important. Et je pense que le plus beau cadeau que nous ait fait Erwan, c'est de nous demander de ne pas finir d'une manière grave. Et nous, on avait un peu du mal encore avec une idée d'un happy ending. Et du coup, on a trouvé quelque chose d'intermédiaire où on accède plus à un état de grâce. En tout cas, c'est ce qu'on a souhaité faire à la fin. Mais ça, je pense que c'est pour moi le plus beau cadeau qu'on ait reçu de cette collaboration, en fait.
dans les oreilles.
Nova.
Dans les oreilles de...
La Horde.
Sophora Japonica, suivez le morceau Rave extrait de Room with a View, création collective de Rhône, La Horde, avec le Ballet National de Marseille, que vous pouvez voir d'ailleurs jusqu'à demain au Théâtre du Châtelet à Paris, mais également sur toutes les plateformes suite de notre immersion dans le cœur musical du collectif La Horde. La musique, c'est aussi l'air du temps. Alors, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ?
Là, en ce moment, on boucle The Grid de Philip Glass.
C'est lui qui, le morceau qui illustre un moment dans le film qui est impossible à prononcer, Konoya Yaski, je ne sais pas comment.
Konoya Class.
Ouais, Konoya Niskasi, je crois, un truc comme ça. Celui-ci, il est vraiment porteur de fou pour la danse.
Et c'est vrai que toutes les musiques qui accompagnent un peu les films de science-fiction, Blade Runner ou Interstellar,
Dune,
c'est vrai que ça, on est vraiment très très fan.
Qu'est-ce qui vous plaît ?
C'est des paysages sonores en fait. Ça évade et c'est vrai que pour créer, c'est source d'inspiration.
Les œuvres qui se transmettent le plus sont des grands classiques, en fait. Et je pense que les albums un petit peu qu'on pensait diguer quand on avait 16 ans, mais qui étaient hyper populaires plus tôt, il y avait Suicide, je pense, avec Chéri Chéri. Effectivement, pratiquement toute l'œuvre de Bowie. Et ensuite, dans les choses que j'ai les plus partagées, je pense qu'il y avait quand même les Velvet Underground, qui sont... un groupe qui m'a occupé absolument toute mon adolescence.
Ouais, toute mon adolescence. Très rock quand même.
Et moi, c'est beaucoup de films, de BO de films. C'est vrai que toute la BO de Cruelle Attention, alors que le film n'était pas fou, mais la BO, elle était fabuleuse. Et plus encore aujourd'hui, toutes les BO de séries, c'est une force. La Euphoria, par exemple.
Ouais.
Leftovers.
Ouais. Mm-hmm. C'est Leftovers.
Max Richter ou Drake sur la coordination musicale sur Euphoria. Ouais, c'est vrai que c'est dingue.
C'est vrai que la musique de film, c'est aussi un, bah forcément par rapport à ce qu'on fait, des choses qui nous accompagnent beaucoup. On écoute beaucoup de BO.
Les oreilles de
La Horde.
Et comment vous aimez écouter la musique ?
Fort.
Ouais, très fort.
Bah d'ailleurs,
moi, je suis un peu sourde.
Il y a deux ans, on a fini par arrêter Room with a View parce que le Premier ministre déclarait le fameux confinement, le premier confinement qu'on a tous connu. Mais bon, maintenant que tout le monde le sait, le Châtelet aussi a des problèmes d'insonorisation et parce que notamment la musique était trop forte. Chez nous, la musique est généralement très forte avec beaucoup de subs. Après, ce qui n'empêche pas d'avoir aussi une affection pour les systèmes sons qui peuvent jouer fort, mais de qualité. Je pense qu'il y a un des systèmes sons qu'on a particulièrement aimé, c'est celui du Bassiani, justement à Tbilissi, un club hyper underground techno qui est maintenant de plus en plus connu, qu'on a pas mal fréquenté lorsqu'on a créé notre pièce Marine Mine Bassiani avec des danseurs traditionnels géorgiens, mais aussi en collaboration avec Sentimental Rave, qui est une DJ techno français. Et du coup, c'est vrai qu'à Bassiani, ils ont un système son qui est d'une qualité rare et surtout aussi esthétiquement dingue, quoi.
Et je pense qu'effectivement, l'endroit où on a énormément de chance aussi, et ça, je m'en rends compte quand je suis en vacances, c'est qu'en fait, on écoute tout le temps de la musique très fort parce que on est en tournée, en fait. Et du coup, on joue la musique des spectacles quand on est dans les théâtres. Et quand on est en répétition, dans le grand studio, on écoute aussi avec un système son qui est énorme dans un plateau qui fait 2 fois 20/20. Donc en fait, on écoute toujours la musique vraiment dans des dimensions gigantesques. Et ça, je pense que c'est des habitudes qu'on a prises et qui sont assez difficiles à perdre de temps en temps. Parce que, par exemple, quand je suis en vacances, les moments où je ne suis pas en club, je me suis rendu compte que ça me manquait, en fait, de ne pas entendre la musique dans des grands espaces comme on est habitué à le faire. Et ça, je pense que c'est un peu un privilège de nos métiers, en fait. C'est qu'on est tout le temps en contact. C'est pas seulement la musique dans les AirPods, quoi. Elle est spatialisée, il y a des corps qui bougent avec, qui occupent l'espace dessus. Et du coup, c'est une approche de l'écoute qui est extrêmement sensorielle, qui est extrêmement spatiale et qui est extrêmement forte.
Et vous écoutez quoi en ce moment, justement ?
Est-ce qu'il y a dans la playlist ?
Là, cet été, on écoutait le nouvel album de Beyoncé.
Ouais, ça, on peut pas le cacher, c'est clair.
Unique. That's what you are. Stilettos kicking vintage crystal off the bar. Category bad bitch, I'm the bar. Alien superstar. Whip, whip.
Pareil pour le travail, on a quand même pas mal écouté du Philip Glass.
Il y a celle qu'on aime bien jouer aussi en répétition, celle d'Evil Grimace, Mes larmes, qui fait partie du collectif Casual Gabber. Il y en a une aussi qu'on aime bien, c'est Maladie de Shannon. C'est Mal-a-di de Shannon. Ça, tu mets ça en studio, tous les danseurs sont...
Et après, dans des trucs un petit peu plus drôles, il y a Anima Libera aussi. Ça, c'est du nightcore. C'est un peu du happy frapcore. C'est assez, assez spécial, mais c'est quelque chose qui peut aussi mettre un petit peu en énergie quand on danse.
Et vu qu'on est à Marseille, des fois, on met quand même du Joule. Hein.
Oui.
Quand même.
Et beaucoup d'ASMR.
Ah non, je déteste.
Toi, tu détestes. Moi, j'adore.
Je déteste ça. Ça non.
Ah, j'adore.
My husband thinks it's very strange and weird that I watch ASMR.
En fait, ce qui est dur en studio, c'est quand on est en création, c'est qu'on fait appel à des musiques de films, à des titres existants. Et pour ramener de l'étrange, on fait souvent appel à des discours enregistrés, que ce soit Judith Butler ou Paul B. Ou même Nina Simone dans une interview. Ou des, voilà, on glane.
Trump aussi, pour justement avoir
des voix.
Ouais.
Vous convoquez des voix.
Ouais, même,
on
même des discours des fois aussi.
Avec lesquels on n'est pas d'accord.
Hyper compliqué justement pour créer du contraste, parce que si on met que des paroles auxquelles on adhère,
on distord comme ça les sons, on vient les faire se superposer. Et du coup, c'est vrai qu'on compose nous-mêmes un peu en direct. Après, on collabore avec les collaborateurs musicaux. Mais avant, nous-mêmes, de manière assez artisanale, on trafique, machin, etc. Et la ASMR vient quand même mettre un lien pour pas qu'il y ait un énorme blanc. On a d'ASMR de Cardi B ou des ongles comme ça qui viennent gratter le micro. Mmh. C'est juste histoire de faire un lien entre des discours, de la musique, une mélodie qui s'échappe comme ça.
Mais je préfère quand même quand tu mets des sons d'orage, de vent ou de tempête.
Dans les oreilles.
Dans les oreilles.
Nova.
Dans les oreilles de...
La Horde.
Et enfin, dernière question, c'est quoi la musique pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ?
Wow, vaste question.
Moi, je sais que par rapport à ce qu'on fait, en fait, dans notre travail, on est un peu devenus des grands amateurs dans plein de domaines différents, entre l'installation, la sculpture, la réalisation, les shows effectivement qu'on fait au plateau, l'art chorégraphique, le moment où on doit penser le costume, on doit penser la lumière. On a un peu touché à finalement toutes les formes d'expression artistique. Et en fait, la musique, c'est le seul auquel je comprends vraiment rien et envers lequel je veux garder en fait cette ignorance. C'est-à-dire qu'il reçoit seulement et qu'il n'est pas en train d'analyser ce qu'il entend. Et donc, je pense que cette candeur, c'est de l'ordre de la magie en fait. Je n'arrive pas à comprendre comment les compositeurs, les auteurs, les chanteurs arrivent à venir avec des mélodies, à les mettre en forme et à faire que ça vienne toucher des millions de personnes, quoi, des millions d'âmes, avec des gens qui vont le jouer le jour de leur mariage ou d'autres qui vont vivre leur plus grande histoire d'amour dans un club dessus ou leur plus grosse bagarre, je sais pas quoi, c'est juste une espèce de bande-son de la vie qui en plus occupe un espace aussi. Je veux dire, c'est quand même le médium qu'on a dans une voiture, qu'on entend quand on est au supermarché, qu'on peut écouter chez soi, qu'on peut écouter dans sa poche, qu'on entend à la télé, qu'on entend à la radio. Enfin, je veux dire, c'est le médium artistique qui est le plus présent, en fait, dans nos vies. Et donc, pour moi, c'est l'art le plus sentimental, le plus magique, et je veux garder un pied complètement en dehors de sa compréhension.
Non, moi, c'est...
Tout comme Marine.
Arrête, putain, c'était ma réponse. Non, mais c'est vrai, c'est un peu comme Marine, et je rajouterais peut-être, c'est des catalyseurs de mémoire. Pour moi, c'est un peu comme je disais au début, c'est comme le parfum, quoi. C'est des objets sensibles qui te ramènent à des histoires, à un temps. Comme une Madeleine de Proust, c'est vrai que dans nos métiers très artistiques, on perd vite une certaine naïveté qui est hyper précieuse. Qui est de comment les choses se font, et forcément notre regard change, et c'est vrai que la musique a encore cet effet sur moi de m'éveiller très très simplement des émotions complètement diverses. Donc ouais, c'est, pour moi c'est une capture du temps, la musique.
Bah, pour moi c'est une capture des émotions aussi, parce que c'est vrai que quand on est triste ou quand on a envie d'être joyeux, bah souvent on met des sons en adéquation avec ce qu'on ressent. Et quand on tombe sur un son qu'on n'a jamais entendu, ça nous provoque justement des émotions. Donc c'est ça qui est assez, assez fort, c'est que le son, ça n'amène pas des images, mais nous-mêmes, on crée des images avec la perception qu'on entend. C'est vrai que là, je rejoins Arthur et Marine justement en donnant ça en plus.
Merci à Marine, Jonathan et Arthur du collectif La Horde de conserver la candeur et d'avoir été ce matin nos transmetteurs. J'espère que cette heure passée en compagnie du collectif vous aura donné envie d'agrandir votre discothèque. Merci à Mathieu Boudon pour la réalisation de cette émission qui, je vous le rappelle, est en version augmentée sur nova.fr et sur toutes les plateformes, avec plus de musique et d'histoires liées à la musique à découvrir. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les dates de tournée et prochaines créations de La Horde sur leur site collectiflahorde.com. Retenez entre autres l'exposition performative qui aura lieu à la fin du mois d'octobre au théâtre de Chaillot. Quant à moi, je vous retrouve, ce sera dans quelques minutes, côté Grand Mix de Radio Nova.
Nova.
Dans les oreilles.
En fait, la musique, elle est essentielle pour une chose, c'est mettre dans un état émotionnel.
Dans les oreilles.
La musique, c'est des sons organisés, c'est des respirations.
La musique, c'est le lien entre le matériel et l'immatériel.
Nova.
Retrouvez Dans les oreilles 2 et sa playlist sur nova.fr.